And so translation might save us. Might. There is no promise. Because what we have learned through the multiplicity of languages is that concepts vary from language to language and become enriched when they are translated into another language.
Pourquoi n'essaies-tu pas de traduire toi-même et on commence à traduire un vers, deux, trois, quatre, et puis finalement on fait un va-et-vient d'un texte à l'autre et on produit un objet rare, un objet différent en tout cas, et qui donne beaucoup de plaisir à construire, à concevoir.
Le cinquième chapitre, le sixième chapitre, le neuvième chapitre, le douzième chapitre, le quinzième chapitre, le dix-septième chapitre, le vingt-troisième chapitre, le vingt-neuvième chapitre.
C'est tellement mystérieux la traduction d'un livre, et c'est tellement passionnant la vie des artistes de la traduction. Pour ses 50 ans, la TTLC a lancé un balado intitulé « La version originale » dans lequel moi, Jeannot Clerc, je vais à leur rencontre. Le 25 avril 2026, dans un salon de l'Hôtel 10 rue Sherbrooke à Montréal, pendant le festival Métropolis Bleu, je me suis entretenu avec Dominique Fortier, devant public. Les sons additionnels sont des créations d'Oana Avasilikiai, et vous venez d'entendre les voix d'Alberto Manguel et de Nicole Brossard. Bonne écoute. Merci de vous être déplacé au festival pour écouter Dominique Fortier et moi aujourd'hui en public. Alors, né dans cette grande capitale du bilinguisme qu'est Québec en 1972, Dominique Fortier étudie comme le font les futurs profs de lettres, mais pour fuir l'enseignement. Son pire cauchemar. Elle se plonge dans la révision, l'édition, la traduction et un peu plus tard, l'écriture. Écrivaine du voyage, qui préfère elle-même voyager par les livres que dans ses valises? Elle traduit notamment Lisa Moore, Anne Michaels, Emma Hooper et Denis Béchard. En 2008, il n'a fallu qu'une nuit à son futur éditeur pour tomber sous le charme de sa plume et publier son premier livre, Du bon usage des étoiles, un grand succès, suivi de plusieurs autres, parmi lesquels se distinguent Les villes de papier en 2018, une méditation sur Emily Dickinson republiée en France et lauréat du prix Renaudot de l'essai, entre autres. Traductrice de plus de 40 livres, dont plusieurs essais portant sur des sujets aussi variés que le bourreau et les arbres, un antépisode de Anne la maison au pignon vert, une pleine cargaison de romans, 5 fois finaliste au prix du gouverneur général pour la traduction de l'anglais au français, récipiendaire du prix de traduction Cole. Elle observe depuis des années maintenant un horaire strict, écriture le matin, traduction l'après-midi. Parmi toutes ces versions de toi, Dominique, merci de nous offrir aujourd'hui la version originale.
Merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Alors, on va pas commencer par le début. Hein? On va retourner au début plus tard, mais on va rester un peu avec Emily Dickinson. J'aimerais qu'on commence par écouter quelque chose que tu as écrit à ce sujet.
On raconte qu'elle a commencé par limiter ses visites au village, pour ensuite rester cantonnée au jardin, avant de ne plus guère quitter la maison, puis le deuxième étage, pour finalement élire domicile dans sa chambre, dont elle ne sortait qu'en cas de stricte nécessité. Mais en vérité, elle vivait depuis longtemps dans bien plus petit encore, un bout de papier, grand comme la paume. Cette maison-là, personne ne pourrait lui enlever. En écrivant, elle s'efface, elle disparaît, derrière le brin d'herbe que sans elle, on n'aurait jamais vu. Elle n'écrit pas pour s'exprimer, quelle horreur. Ce mot lui rappelle celui d'expectoré. Dans les deux cas, le résultat ne peut être qu'un flegme gluant plein de glaire. Elle n'écrit pas pour se distinguer. Elle écrit pour témoigner. Ici a vécu une fleur, 3 jours de juillet de l'an 1871, tuée par une ondée un matin. Chaque poème est un minuscule tombeau élevé à la mémoire de l'invisible. Pour faire une prairie, il faut un trèfle et une seule abeille. Un seul trèfle, une abeille, et la rêverie. La rêverie seule fera l'affaire si les abeilles se font rares.
Alors, c'est Pascale Monpetit, la grande comédienne, qui lit ta traduction d'Emily Dickinson. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est retrouvé sur scène?
C'est Pascal qui avait eu l'idée de proposer à Michel Corbeil, qui est la présidente du Festival international de littérature, une mise en lecture des Villes de papier et des ombres blanches, qui est la suite du livre qui est consacré aux femmes qui ont découvert les manuscrits de Dickinson après sa mort et qui les ont publiés, donc qui sont d'une certaine façon pas les auteurs de son livre, mais qui ont été aussi des personnes importantes dans la création de l'œuvre. Et j'ai trouvé que c'était une très belle idée, j'étais très touchée, et j'ai osé proposer cette chose un peu folle, je ne sais pas où est-ce que j'ai trouvé ce courage, mais ou cette folie, de demander à Pascal, oui, mais est-ce que peut-être on pourrait le faire ensemble? Mm-hmm. Puis elle a dit oui. Et donc, pendant 3 ou 4 représentations à Montréal et 3 ou 4 représentations à Québec l'an dernier, on est monté sur scène ensemble pour lire ce texte. Puis c'était magique parce que, mon Dieu, Pascal, oui. Monpetit,
est oui, puis fabuleuse. Emily Dickinson aussi. Moi, je voudrais te demander pourquoi Dickinson est si importante pour toi. Ben, mon hypothèse, c'est parce qu'elle concentre le monde vraiment de façon extrêmement efficace dans un livre. Et elle voyage, elle aussi, par les mots. Elle a une volonté de polir, élaguer, concentrer. Je ne sais pas si je suis dans les bonnes ondes pour expliquer ton amour pour elle.
Je pense que oui, ça ressemble à ça. Il y a effectivement quelque chose de l'ordre du concentré, là, du distillé, presque. Pour moi, Dickinson, c'est la figure parfaite de l'écrivain, la figure idéale impossible de l'écrivain, c'est-à-dire que c'est une personne dans la vie de qui n'existe que l'écriture. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de... Elle n'a pas eu de famille, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas pris soin de sa famille élargie. T'sais, toute sa vie, elle a été un peu celle de qui on s'occupe, c'est-à-dire... Ouais. Et donc, elle avait ce loisir, cette liberté extrêmement rare de se consacrer entièrement à l'écriture. Donc, pour moi, c'était comme une porte qui permettait d'explorer cette chose-là, l'écriture. Puis, en fait, la poésie, tu sais, qui est peut-être l'expression la plus pure de l'écriture, comment ça fonctionne, d'où ça vient, tu sais, pourquoi on a besoin de ça dans nos vies. Puis quand je dis « on », je ne veux pas dire seulement les poètes qui écrivent la poésie, mais pourquoi est-ce que nous, les êtres humains, on a besoin de lire ça. Donc Dickinson, ça me permettait de ramasser tout ça dans une sorte de figure exemplaire qui, elle-même, est fascinante parce que sa vie est super intéressante. Le fait qu'elle ait passé les dernières années de sa vie absolument recluse dans une chambre, tu sais, c'est une existence de prisonnière de l'extérieur. Puis en même temps, moi, je l'ai vu comme un exercice de liberté. Donc ça, c'était intéressant à explorer aussi.
Mais la poésie est arrivée un peu tard dans ton œuvre et aussi peut-être dans ton parcours de traductrice, même si tu as traduit des auteurs et des autrices qui étaient notamment poètes. On reparlera de Dan Michaels. Mais tu es venue à la traduction de poésie à cause d'Emily Dickinson, à cause de la version française des Villes de papier. Est-ce que tu veux nous raconter ça?
Ben oui, parce que quand j'ai écrit les Villes de papier... J'ai voulu inclure certains poèmes de Dickinson et je les ai mis en anglais. Puis ça, au Québec, ça posait pas de problème, mais quand est arrivé le moment de faire le livre en France, mon éditrice me disait « Mais tu sais, c'est pas tous les lecteurs qui comprennent bien l'anglais, on devrait inclure une traduction. » Je dis « Fair enough, on devrait. » Et donc, je suis allée voir les différentes traductions qui existaient pour me rendre compte que il n'y en avait aucune qui faisait vraiment l'affaire. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les traducteurs ont mal fait leur travail. Je suis en train de dire que la poésie, c'est intraduisible par essence. C'est par définition, la poésie, c'est ce qui échappe à la traduction. Et donc, ma façon à moi de contourner ou de résoudre ce problème-là, ça a été d'aller puiser aux différentes traductions. Puis à partir de ça, de faire ma propre version, qui n'est pas meilleure que les autres, mais dont les lacunes sont différentes. Les failles sont ailleurs. Mais c'est souvent ça, en fait. Oui. Tu sais, la traduction, là, puis peut-être que je devance où est-ce qu'on s'en va, mais c'est vraiment un art du compromis. Puis c'est un art du renoncement. Là. Je suis en train de me rendre compte de ça de plus en plus. que c'est à chaque page, à chaque phrase, presque des décisions, pas tant sur ce qu'on va garder, mais sur ce qu'on accepte de laisser aller. Tu sais, à quelque part, là, c'est comme un art de l'abandon. Tu sais, qu'est-ce que j'accepte de perdre, là? C'est un peu ça, la traduction. Puis c'est cet exercice-là que j'avais à faire, intéressant.
Et aussi, qu'est-ce qu'on accepte de gagner, hein? Il faut quand même voir que les traductions apportent, enrichissent énormément. Je me déplacerai vers Anne Michaels, justement, dans ton parcours, qui est aussi une poète, mais dont tu as traduit surtout les romans, Le tombeau d'hiver, il y a plusieurs années, qui a été réédité chez Alto, et Étreinte. Son livre, dont la version originale a été lauréate du prix Giller au Canada, finaliste au Booker à l'international. Je sais que c'est des textes que tu aimes beaucoup, que tu offres souvent, les livres d'Anne Michaels en cadeau à toutes sortes de gens. Quelles qualités tu leur trouves à ces livres?
Toutes les qualités. Je ne saurais trop la recommander. Anne Michaels, c'est une de nos très grandes écrivaines, comme il y en a une ou deux par génération. Moi, je suis persuadée de ça, que dans 50, dans 100 ans, on va encore lire ses livres avec le même émerveillement. Cette femme écrit des romans comme on écrit de la poésie. Puis, je veux pas dire que il y a des images qui sont jolies, que c'est une atmosphère poétique. T'sais, souvent, quand on parle de prose poétique, c'est ça qu'on entend un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque mot est pesé, mais t'sais, sur la plus fine des balances. Là.
Ouais.
Chaque phrase est composée comme un vers, avec le même soin, c'est le même équilibre ou le même déséquilibre, extrêmement délicat. C'est vraiment un travail d'orfèvre, mais alors qu'en poésie, on fait ça sur une demi-page, une page, Anne Michaels le fait sur 400 pages, puis elle trouve le moyen d'intégrer à ça une intrigue, des personnages, tout un univers qui s'y tient. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, là. C'est des constructions, c'est comme des vitraux, tu sais. C'est magnifique. Un défi aussi important à traduire, parce qu'il y a beaucoup de choses à casser.
Et t'sais, pour le faire entendre un peu, puis qu'on puisse au moins entendre un peu de tes traductions dans ce balado aujourd'hui, je vais lire un court paragraphe du début d'Étreinte dans les deux langues, qui va nous permettre d'entendre la prose de Anne Michaels et la façon dont tu la traduis. Later, she would imbue the short walk in the darkness towards that corona of light, the endless fields of invisible grasses rustling around her, with the qualities of a dream, the inevitability of it, the foreknowledge. Plus tard, elle conférerait à la courte marche dans le noir vers cette couronne de lumière, les champs infinis d'herbes invisibles bruissant dans les ténèbres, les qualités d'un rêve, inévitabilité, prescience. Ça nous permet quand même d'entendre un peu à quel point la prose est poétique, justement.
Il y a vraiment quelque chose dans le rythme de la phrase, dans la sonorité des mots. Il y a ce travail-là sur la langue qu'on sent partout.
Je voulais te poser une question précise sur la traduction. Pour ce livre-là, le titre en anglais posait un grand problème, ou peut-être pas, peut-être que ça a été très clair pour toi
et
ton éditeur.
C'est le titre en français qui posait un grand
problème.
Oui,
c'est ça, voilà.
Le titre
original, c'est « Held ».
Oui.
Moi, c'est une question que je me suis posée beaucoup. C'est pour ça que j'avais envie d'avoir accès à ton processus, le travail que vous avez fait là-dessus, parce que dans les textes contemporains, autour du travail invisible des femmes, si on veut, inspiré par des théories psychologiques, psychanalytiques américaines, beaucoup, le verbe « to hold » est associé à un travail féminin. Et puis, il est comme en train de passer vers un terme théorique ou philosophique. Tu sais, Maggie Nelson l'utilise beaucoup comme étant la qualité qu'on veut offrir à une famille ou à une mère, qu'elle « hold » son enfant, qu'elle « hold » son amour. Donc, il y a une espèce de qualité d'universalisation du geste qui est difficile à traduire en français. Puis je me suis souvent retrouvé dans des phrases en particulier en français, dans mes traductions, à essayer de chercher une façon de faire entendre ça. Puis j'étais jamais allé vers l'étreinte. Donc, moi, j'ai fait le travail inverse. J'ai lu le titre que tu lui avais donné. Puis ensuite, j'ai eu la surprise de découvrir le titre qui était en français. Est-ce que tu veux nous parler de comment on est passé de held à étreinte au pluriel?
C'est difficile, les titres. Toi, tu fais de la traduction aussi. Tu le sais, là. Je pense que tous les traducteurs dans la salle, ou en tout cas, peut-être qu'on est les deux seuls de notre équipe, là, mais j'ai l'impression que moi, c'est souvent la chose la plus difficile dans un livre, parce que là, c'est l'endroit où on rassemble l'essence de l'affaire. C'est la première chose que les lecteurs vont voir. C'est une sorte de promesse, c'est ce qu'on annonce. Bref, c'est quelque chose qui hold beaucoup de choses. Tu sais, ça tient beaucoup de choses ensemble. Moi, j'ai toujours la difficulté à trouver les titres de mes romans. J'ai encore plus de mal à trouver les titres de mes traductions. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment un exercice qui est pénible et peut-être un mot un peu fort, là, mais en tout
cas... Oui, parce qu'il y a un plaisir quand même.
Il y a un plaisir, mais il y a beaucoup de frustration. J'ai l'impression que j'y arrive jamais. T'sais, s'il y a un endroit où je ressens la défaite, là, le fait que de jamais être tout à fait à la hauteur, c'est vraiment dans les titres. Celui-là, c'est un mot qui revenait, le verbe « to hold mm-hmm. », mais surtout à la forme passée, là, « held », qui revenait souvent dans le texte anglais. Donc, à chaque occurrence, évidemment, moi, je me prenais une note mentale, puis je me disais « OK, ici, il est utilisé dans tel sens, ici, il est dans tel autre sens. » Puis je me suis rendu compte que, en fait, ce que ça signifiait, c'était vraiment plutôt cette idée-là d'un embrassement. Tu vois, quand on n'avait mm-hmm. pas la... Quand on n'avait pas le titre, le réviseur, ça c'est une autre affaire, c'est un autre travail difficile, oui. La révision de textes bilingues, mais le réviseur, lui, suggérait, on pourrait appeler ça embrassement au pluriel. Mm-hmm. Puis moi, je trouvais que ça commençait à faire beaucoup de syllabes, puis je le voyais mm-hmm. moins. Mais étreinte, il me semble que ça voulait dire à la fois le geste de prendre quelqu'un dans ses bras, puis c'est en même temps un participe passé, tu sais, de plusieurs personnes qui seraient étreintes, il y avait cette affaire-là.
Oui, puis il y a des échos poétiques aussi qu'on pense peut-être même pas au premier abord, puis finalement, ils se révèlent après. Mais moi, commençant ton livre, comme il y a beaucoup question de vêtements au début, de ce que les gens portent, puis des vêtements comme prolongation du corps ou comme symbole important, dans étreinte au Québec, on entend étreinte quand on le dit vite.
Oh!
Puis là, j'entendais les vêtements, tu vois, mais tu vois, ça, c'est une création de la traduction.
Mais ça, c'est la poésie. Un enrichissement c'est poétique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est par connotation plus que par dénotation stricte, puis que j'aime ça que ça t'ait amené ailleurs.
Alors, tu écris dans ton premier recueil de poèmes. Bon, après, on pourrait se poser de longues questions sur le genre des livres. Est-ce que ce livre est si différent en genre de tes précédents ou non? Mais bon, c'est le premier qui est présenté là, comme des poèmes. Tu écris à l'origine, souvenir, c'était subvenir, venir en aide. Et encore aujourd'hui. Alors, c'est un peu ce qu'on te demande aujourd'hui, de nous venir en aide par le souvenir de ta vie, de ton parcours de traductrice, pour nous aider à y voir plus clair c'est quoi une vie de traduction. Donc, retournons cette fois-ci au début. Tu te destinais pas à la traduction.
Non.
À la littérature, oui, dès le début. Tu as travaillé entouré de livres, en bibliothèque pour enfants, en librairie, en maison d'édition. Tu as fait un bac à l'Université Laval, une maîtrise en stylistique, et non pas en création comme beaucoup s'imaginent que tu l'aurais fait. Est-ce que tu veux nous parler de cette passion que tu as pour la mécanique de la phrase?
Mais pas juste une maîtrise en stylistique. Mon doctorat, c'était pas mal de la stylistique aussi. T'sais, on dirait que mon obsession, moi, à moi, elle est là, dans la façon dont les choses se construisent physiquement, mécaniquement. Puis en même temps, c'est pas la mécanique elle-même qui m'importe, mais l'effet qu'elle va procurer, la façon en fait dont on arrive à faire naître cette espèce de magie là dont je parle depuis tout à l'heure, qui est la poésie, la mm-hmm. littérature. Où est-ce que ça loge exactement? C'est-tu dans les mots? C'est-tu dans la façon dont on les agence? Est-ce que c'est dans la façon dont ils vont être reçus par le lecteur? Moi, je pense que la réponse est plutôt de ce côté-là. Mm-hmm. Mais donc, il y avait vraiment... J'ai encore, en fait, cette curiosité-là d'aller voir au niveau de la phrase comment ça se fait. T'sais, comment ça se fait que des fois, là, on lit une phrase, c'est 6 mots, là, puis ça va nous toucher droit au cœur. Puis on va s'en rappeler, puis c'est des choses, des fois, qui vont nous déchirer, puis d'autres fois, qui vont nous aider à vivre. Puis c'est 6 mots, là, facile, là, qu'on utilise tous les jours, mais tout juste dans le fait de les mettre ensemble. C'est comme quand on frappe ensemble 2 cailloux qui sont pas très intéressants, là, des cailloux gris, puis là, il y a une étincelle qui apparaît. C'est la même sorte de magie. Fait que moi, c'est ça qui m'intéressait aussi. Il faut dire que j'avais juste pas l'inclination qui porte certaines personnes vers l'abstraction, là. Donc moi, les théories littéraires, tout ça, pas tellement.
Ben, en même temps, c'est intéressant parce que vu de l'extérieur, les gens vont souvent penser que dans des études comme ça, on va couper les cheveux en 4 ou en 8 ou en 12. Et d'une certaine façon, le fait que tu aies étudié ça et le parcours que tu as eu après, c'est comme si toute ta carrière de traductrice et d'écrivaine était un exercice de stylistique appliqué. Ça a été très concret pour toi, ces apprentissages-là.
En tout cas, la question, à quoi ça mène, qu'est-ce que ça donne des études en littérature, tu sais, moi, je peux répondre, ça m'a aidé à être une meilleure traductrice. Puis ça m'a aidé à devenir écrivain, probablement. C'est sûr qu'il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de, il y a pas une seule voie, il n'y a pas un chemin tout tracé. Moi, ça a pris des années avant que je sache ce que j'allais faire, ce que je voulais faire, ce que j'étais capable de faire. Tu sais, j'étudiais la littérature parce que j'aimais les livres, pas tant parce que je pensais que j'allais en faire. En fait, j'étais convaincue que j'en ferais pas. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible.
Ben, voilà, exactement. Ouais. Il a fallu des gens sur ton parcours, à plusieurs reprises, qui ont vu en toi plus que ce que tu te doutais. Et une de ces personnes-là, ça a été Yvon Rivard, que tu as rencontré dans des séminaires. Je ne sais pas si tu étais à la maîtrise au doc ou
c'était
deux.
C'était mon directeur de maîtrise.
C'était ton directeur de maîtrise. Donc, qui est un essayiste québécois, un grand accoucheur d'écrivaines et d'écrivains au Québec. Et Yvon avait envie de te dire un mot aujourd'hui.
Dominique ne fait rien comme les autres. L'année où elle a suivi mes cours de création littéraire, trois de mes élèves, qui étaient aussi de grandes amies, allaient devenir écrivains. Nadine Bismuth, Julie Massieri et Dominique. Nadine et Julie ont fait un mémoire en création littéraire qui est devenu leur premier livre. Dominique a préféré consacrer son mémoire à l'étude du style d'Émile Ajar. Après son mémoire, je pensais qu'elle allait se mettre à la fiction, mais voilà qu'elle fait un doctorat sur l'écriture de Gabriel Roy, dirigé cette fois par François Ricard. Après cette thèse, que fait Dominique? Elle ne devient pas professeure ou scénariste comme ses deux camarades, elle devient traductrice. Chaque fois que je la rencontrais, je lui rappelais son talent d'écrivain. Je lui disais que j'attendais toujours son premier livre et elle me répondait que ça viendrait un jour. Quand ce jour est arrivé, elle s'est retrouvée avec ses deux amies, Nadine et Julie, finalistes au prix du gouverneur général. Elle est la preuve vivante qu'on peut commencer à écrire à n'importe quel âge et que l'une des voies les plus sûres pour y arriver, c'est de considérer, comme dit Proust, que le devoir et la tâche de l'écrivain sont ceux d'un traducteur. Traducteur des livres qui existent déjà en chacun de nous, traducteur de la vie qui se cache sous la langue quand la langue montre les choses sans les dire. Si je faisais une thèse aujourd'hui, elle porterait sur l'œuvre de Dominique comme espace commun du roman qui raconte, de l'essai qui réfléchit et de la poésie qui vibre en se taisant. Dominique ne fait rien comme les autres, elle est libre, car elle abolit les frontières artificielles entre les genres littéraires, ainsi que celles entre la fiction et la non-fiction.
Quel merveilleux beau cadeau! Merci! Oh, j'avais
Yvon a été très généreux, hein?
Yvon
parce que
non
seulement il parle de ce que tu fais, mais il nous offre aussi une analyse de ton travail en forme de compliment.
Merveilleux professeur du monde, pour ceux qui pourraient en douter. Tu sais, ça, c'est un aperçu de ce à quoi on avait droit quand on assistait à... Eh oui, je pleure!
Pardon, c'était pas l'objectif.
À ses séminaires et à ses cours, on sent là, dans sa voix toute la passion qu'il a pour les livres, pour la littérature, cet élan-là, puis cette finesse et cette intelligence extraordinaire. C'est pas uniquement un essayiste, bon, c'est aussi un grand, grand romancier.
Tout à fait.
Et un poète. Et un tout extraordinaire lecteur. Et comme tu dis, c'est un accoucheur de vocation. Je pense qu'on est des dizaines à avoir suivi ses cours de création à McGill et à être devenu écrivain en grande partie grâce à lui, je pense. Et quand il mentionne que c'est vrai, du bon usage des étoiles, mon premier roman s'est retrouvé finaliste au prix du gouverneur général. Ça n'arrive pas si souvent pour un premier roman. Puis cette année-là, il y avait Nadine, puis il y avait Julie. Puis sur quatre finalistes, on était trois de ses élèves.
Ouais.
C'est pas un hasard, là. Pour vrai, on était là grâce à lui. À cause de...
Est-ce que c'est une drôle de question, mais écoutant Yvon mettre ça de l'avant, mais mettre en lumière cette coïncidence-là, est-ce que tu as l'impression d'un effet de génération? Te sens-tu des atomes crochus avec les œuvres de ces autres écrivaines-là?
Ah, on fait des choses qui sont très, très différentes.
Oui, oui, de mon point de vue, c'est ce qui me semble.
Complètement. Mais... Nadine a fait des textes qui sont très... François Ricard appelait ça des études de mœurs. C'est des romans vraiment axés sur les personnages, plus psychologiques. Elle est devenue scénariste.
Oui, ça l'a menée vers la télé.
Oui, d'ailleurs, Julie a fait une littérature qui s'apparente par certains aspects à des textes du 19e siècle, un peu à la Flaubert. Puis il y a comme une noirceur dans ce qu'elle fait, puis une profondeur est fabuleuse. Mm-hmm. Puis moi, je ne sais pas ce que je fais, mais je ne sais pas ensemble, ni à l'une ni à l'autre.
Oui, ouais. Tout à fait.
Donc oui, j'ai eu cette chance-là quand je suis arrivée à McGill. Mon premier jour, j'arrivais de Québec, où j'avais fait une scolarité de bac qui était assez décevante, pour vrai. puis un certificat d'enseignement du français qui m'avait surtout appris que je ne voulais pas enseigner le français. Fait que quand je suis arrivée à McGill, premier séminaire, premier soir, j'ouvre la porte de cette salle de classe et je vois assis au fond, à peu près là, Michel Rivard, de Beau-Dommage, qui était là pour suivre le cours d'Yvon.
Ah bon?
Ah oui! Et là, je me dis, mais non, je ne suis pas du tout au bon endroit. Je peux pas, là. Tu sais, je peux pas m'asseoir à côté de Michel Rivard de Beau-Dommage pour suivre un séminaire. Mais les gens venaient de partout pour suivre les cours d'Yvon. Puis ça a été, tu sais, ce premier cours-là. Il nous a dit cette phrase fabuleuse. « La plupart des gens que je connais qui voulaient devenir écrivains le sont devenus. » Qui est comme une sorte de permission.
Tout à fait.
Ouais.
D'encouragement aussi à suivre ses rêves, pour utiliser la formule éculée qui est quand même importante. J'aimerais aller voir un deuxième filon, parce que bon, on pourrait être tenté là, de comprendre comment en général les gens te connaissent comme écrivaine, que la traduction reste comme un genre de gagne-pain à côté de ton œuvre d'écrivaine, mais au fond pas du tout. Quand on te parle, on réalise à quel point la traduction est un grand plaisir pour toi. Mais avant de voir comment elle arrive dans ta carrière, avant là, que l'écriture, que ton œuvre commence, ben, il faut savoir comment l'anglais arrive dans ta vie, parce que ce sera ça la langue que tu vas traduire vers le français. Donc, c'est un anglais, pour résumer, qui te vient des camps de vacances et de la télé.
Oui, je suis pas parfaitement bilingue. Je le mesure à chaque jour en voyant ma fille, qui, elle, a une langue maternelle qui est le français, et une langue paternelle qui est l'anglais, et qui passe de l'une à l'autre avec beaucoup de facilité, puis qui a même un humour différent dans les deux langues. Elle a une personnalité un peu différente dans les deux langues. Elle a vraiment deux personnes. Elle a cette chance-là. Moi, je suis née à Québec, que tu décrivais comme une capitale bilingue.
Pas tellement.
Je me souviens, quand j'avais 16 ou 17 ans, je travaillais dans un petit centre d'achat à Sainte-Foy, puis il y a une dame qui s'était présentée puis qui avait demandé en anglais où était la librairie ou je sais pas quoi. Puis on était 4 ou 5 personnes à travailler là. Tout le monde était resté figé. Et moi, j'avais réussi à lui répondre dans un anglais approximatif, « Well, it's up the stairs », tu sais, quelque chose comme ça. Puis les gens s'étaient retournés vers moi en disant, « Mon Dieu, tu parles anglais. » Tu sais, je veux dire, ça fait pas 60 ans. Ben, pas loin, mais pas 60 ans. Donc, je baignais pas dans un milieu anglophone, j'ai pas fait d'études en anglais, mais j'ai passé quelques étés dans des camps. Et puis, comme tout le monde, on baigne tous dans cette culture américaine de musique, de films, de séries. Donc, tu sais, par osmose, finalement, plutôt que par la littérature, parce que pendant longtemps, pour moi, lire en anglais, je trouvais que c'était long. Tu sais, en français, quand c'est notre langue maternelle, on lit pas chacun des mots, ni même chacune des phrases, si on a une façon d'absorber une page au complet d'un coup, puis moi, en anglais, il fallait que j'aille comme ça, tu sais, puis j'étais comme c'était insupportable, fait que je lisais pas tellement non plus en anglais. Je l'ai peut-être finalement appris véritablement en entreprenant cette pratique de traduction.
Oui, d'accord. Ouais. Ben, parlons-en de comment ça a commencé. Donc, encore une fois, des gens ont vu en toi des choses que tu ne soupçonnais pas. On t'a confié la traduction d'un recueil de théorie littéraire pour un séminaire ou un cours de bac.
Oui. Quand j'étais à McGill, il y avait un chargé de cours qui était là, qui s'appelait Robert Robarski, qui enseignait la théorie littéraire, puis qui trouvait qu'il n'y avait pas de bons outils, en tout cas pas de manuel que lui avait envie de recommander à ses étudiants. Puis il était jeune, puis plein d'enthousiasme, puis il a dit « Qu'à cela ne tienne, je vais en écrire un. » Puis il m'a dit « Mais en fait, moi je vais l'écrire en anglais parce que c'est ça ma langue. Est-ce que toi, ça te tenterait de le traduire en français? » J'ai comme « Hey, parce que j'étais jeune et plein d'enthousiasme, j'ai dit « Ben, sure, je peux essayer. » Et cet ouvrage a été publié par les presses de l'Université de Montréal. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Honnêtement, ça a été un parcours éditorial assez compliqué et chaotique parce que lui savait quand même ce qu'il faisait, moi, pas du tout. Puis bon, tu sais, l'accompagnement, ça a été coup-ci, coup-ça, fait que on dirait que je considère pas que c'est ma première traduction. C'est comme un coup de pratique.
Voilà, puis de toute façon, il y a assez peu de traducteurs et traductrices que je connais qui seraient ravis qu'on excave leur première traduction.
Non, c'est ça.
Donc, tu as touché assez rapidement aussi à un récit de réfugié avec une phrase qui t'est restée en tête, assez marquante, au sujet d'un passeport.
Ben ça, c'était un texte que lui avait écrit, puis ça a un peu été ma vraie porte d'entrée vers la traduction, parce que Il avait écrit, il travaillait beaucoup sur les rapports entre la littérature et le droit. Mm-hmm. Donc, il avait écrit un ouvrage là-dessus que moi, j'ai présenté aux éditions du Boréal en disant « Mais est-ce que vous accepteriez d'en faire une version française? » Je pourrais faire cette version française. Mm-hmm. Et je pense que le texte s'intitulait ou commençait par cette phrase-là « Before coming here today, I ate my passport ». Qui était très frappante. Et c'était des histoires de récits de réfugiés, de gens qui avaient quitté leur pays puis qui avaient tout laissé derrière eux. Et le Boréal a regardé ce texte-là puis a dit « Mais en fait, non, ça ressemble pas tellement à ce qu'on fait, on n'est pas vraiment intéressés. » Mais nous avons cet énorme ouvrage de politique canadienne à traduire pour lequel nous n'avons pas de traducteur. Est-ce que tu accepterais de faire un échantillon? Puis je leur ai fait, je pense, 30 ou 50 pages, quand même un bon échantillon. Mais c'était correct, j'avais jamais vraiment fait de traduction. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, moi, de demander aux gens de faire l'équivalent d'une audition quand on leur confie un livre. Je trouve même que peut-être ça devrait se faire plus
tout
souvent.
Tout à fait, c'est juste qu'avec les conditions de travail d'aujourd'hui, un échantillon non payé de 30 pages, bon, pré-contrat, ça semble
ça
un peu
intéressant.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais j'étais très enthousiaste pour prendre ce mot. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point j'aimais la traduction. Parce que le sujet de ce livre ne m'intéressait aucunement. C'était sur l'histoire des partis politiques au Canada, à partir des origines jusqu'à la période moderne. C'était vraiment 350 pages de... Oui. T'sais, ça s'adressait aux étudiants de deuxième cycle en sciences politiques, faut se le dire, j'avais pas du tout le profil. Et pourtant, chaque jour que je m'installais devant mon ordinateur, j'ai comme « quelle chance j'ai de pouvoir faire ce travail ». Vraiment.
Donc, un grand coup de cœur.
Ouais.
Puis, assez rapidement, tu continues de traduire pour le Boréal et tu vas recevoir une autre leçon de traduction importante pour toi avec Judith Cohen, dont tu as traduit des nouvelles. Et c'était une première expérience au fond de traduction littéraire.
Ouais.
Et elle te fait une remarque sur une phrase en particulier qui t'est restée en tête.
Toujours. C'est fou, hein? Ça fait 30 ans maintenant. Puis c'est probablement la leçon de traduction la plus importante que quiconque m'a jamais donnée. Ça va avoir l'air absolument anodin, mais ça m'est toujours resté. C'était une phrase très simple. Elle décrivait des festivités de la Saint-Jean, puis qu'il y avait des gens qui arrivaient de partout et qui s'en allaient vers un grand rassemblement. Puis c'était raconté un peu sur le ton ironique, tu sais, mais une ironie très fine. Judith Cohen, elle avait ce talent-là. Puis elle décrivait un couple qui avançait avec une poussette dans laquelle se trouvait un petit chien avec des oreilles, je ne sais pas trop comment. Et elle avait écrit « Between its ears, the dog was wearing a barrette », une barrette entre les oreilles. Ce que moi, j'avais traduit par « le chien était affublé d'une barrette ». Puis là, Judith m'a dit « oui, mais non ». Parce que... Elle avait utilisé une formulation qui était neutre, qui était juste un chien, il y a une barrette. Puis moi, j'avais ajouté à ça la connotation un peu ironique que je lisais dans son texte, qui était là. Son texte était ironique, mais cette ironie-là, il fallait qu'elle soit perçue et ressentie par le lecteur. C'était pas ma job de traductrice de dire « Voyez, ici, vous devez voir qu'il y a quelque chose d'un peu comique qui se passe. Ou... » Puis ça, c'est une bonne leçon parce que C'est une vraie tentation, je pense, puis un vrai danger, comme traducteur, de confondre les deux sens du mot « interpréter ».
Ouais.
Interpréter un texte, un interprète, c'est un traducteur. Mais interpréter, c'est aussi expliquer, gloser, dire ce qu'on comprend d'une chose. Puis ça, il faut se garder de ça comme la peste, je pense, quand on traduit. C'est un des plus grands défis, je pense. C'est-à-dire de donner à lire, à ressentir au lecteur dans la langue d'arrivée la même chose que le lecteur dans la langue d'origine. C'est lui présenter la même question, le même mystère, puis pas le résoudre pour lui, même si nous, évidemment, pour faire la traduction, il faut qu'on ait résolu l'affaire un peu. Mais c'est ça, il faut lui donner la même ouverture puis la même liberté.
Ben oui, tout à fait, parce que ça fait partie des caractéristiques du texte original d'avoir posé des questions
mais
et pas seulement donner des réponses.
Mais c'est tentant, par exemple, tu sais, quand on a saisi de quoi, de vouloir comme... Ouais.
Tout à fait. Mais en même temps, pour traduire, il faut pas non plus fétichiser le moindre élément du texte original. Il faut quand même être capable d'avoir un point de vue large puis d'aborder le texte traduit comme un autre texte original. Et là, pour cette autre leçon de traduction que tu as reçue, la personne qui a été importante dans ton parcours, c'est l'éditeur Jean Bernier au Boréal, qui va t'avoir accompagné dans cette prise de liberté. Jean Bernier avait aussi un mot pour toi.
J'ai connu Dominique Fortier, traductrice, avant de connaître Dominique Fortier, romancière, puisqu'elle n'avait pas encore proposé de roman à ce moment-là. Mais je crois que j'ai dû reconnaître en elle ce don de création, cette facilité de s'approprier tous les pouvoirs de la langue. On a travaillé d'abord, je me souviens très clairement, sur les textes de Lisa Moore, cette écrivaine de Terre-Neuve, qui sont très difficiles à traduire parce que la réalité que Moore nous donne à voir dans ses romans est toujours vue à travers tout un filtre de perception, de perspective. Et donc, il faut incarner vraiment cette écriture-là. Et tout de suite, Dominique, je crois, a pu enrichir son travail de traductrice de ce don d'écrivain qui est le sien. Ma vision de la traduction, celle qu'on a toujours défendue au Boréal, est vraiment la traduction comme étant une recréation, de s'éloigner des défis purement... De rendre la surface de la langue pour s'attacher à l'affect en profondeur. Et il faut, pour être capable de recréer, bien sûr, l'intention, ce qu'on devine comme étant l'intention de l'auteur original. Et pour ça, Dominique s'est sentie tout de suite très à l'aise, je pense. Et elle a cette fascination pour la langue aussi, pour tout ce qui touche la richesse de la langue et des langues. Je sais qu'elle a eu beaucoup de plaisir à traduire aussi « Parlez-vous Borro » d'un encablé qui est une fascinante étude sur les langues en voie de disparition. Donc oui, d'approcher la traduction comme elle l'a fait, c'est-à-dire avec toute la richesse de son talent de romancière, était pour moi une très très grande qualité du travail de Dominique Fortier.
Wow! Hey Jean Bernier, il faut se le dire, là, c'est, qui est éditeur chez Boréal depuis, mon Dieu, 40-50 ans. Qui a été longtemps leur seul éditeur, qui est l'éditeur derrière des chefs-d'œuvre de la littérature québécoise contemporaine. J'ai eu cette chance-là de travailler avec lui. T'sais, que pour mes premières traductions, c'était lui qui m'accompagnait, qui m'épaulait. Mais c'est ça. Quand on parlait d'Yvon Rivard tout à l'heure, t'sais, Jean aussi et François Ricard, ça a été des gens dans mon parcours, t'sais, des chances absolues là, d'être accompagné par,
tout à fait,
par des professeurs comme ça.
Oui, voilà, qui ont vu en toi quelque chose, qui t'ont accompagné là-dedans. Je voudrais ramener la discussion sur la leçon qu'ils te donnent, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une dialectique très présente dans la vie et le travail de plusieurs traductrices, d'avoir d'une part le grand, grand respect du vocabulaire exact de la version originale, la discussion qu'on vient d'avoir à partir de Judith Cohen, mais aussi... la nécessité, une fois que le texte est traduit, de lui redonner une pleine cohérence, puis de s'éloigner un peu du détail pour travailler dedans un peu comme si c'était, à ce moment-là, un nouveau texte. Et j'ai entendu beaucoup de traducteurs et traductrices autour de moi dire que Jean Bernier est une personne particulièrement importante pour donner cette liberté-là et apprendre à l'utiliser de façon raisonnable.
Oui. Jean éditait les traductions presque comme il éditait les textes originaux qui lui étaient donnés par ses auteurs francophones. C'est-à-dire qu'il recevait le texte de la traduction. Est-ce qu'il y avait à côté le texte original? Pas sûr. Je pense qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui faisait une lecture juxtalinéaire, tu sais, pour s'assurer qu'il ne manquait pas des paragraphes puis qu'on n'avait rien ajouté. Ce qui est déjà arrivé, pas dans mon cas, mais dans certains cas. Oui. Des gens qui trouvaient qu'il manquait des choses dans des livres, qui y allaient de pages de leur cru. Mais bref, lui, quand il prenait le texte, il le relisait puis il le réécrivait comme si c'était n'importe quel autre manuscrit. Et donc, ce qu'il voulait faire, c'était le meilleur texte français possible. Puis oui, c'est ça, de le voir travailler, moi, ça me montrait justement la liberté qu'on pouvait prendre puis qui n'était pas une trahison du tout du texte original parce que... personne, d'une traduction littéraire, personne n'a besoin que ce soit absolument collé à l'original. Ce dont on a besoin, c'est que esthétiquement, ça produise le même effet, qu'on ressente les mêmes choses à la lecture.
Et peut-être que Lisa Moore, c'était un bon champ d'expérimentation pour ça, parce que pour l'avoir lu un peu, j'espère qu'il y en a parmi vous qui la connaissez, une autre grande écrivaine canadienne, des Maritimes cette fois-ci. la perception et le point de vue sont extrêmement importants dans son œuvre et donc ça se joue beaucoup sur le ton pour faire sentir la façon dont les choses sont toujours extrêmement incarnées. Donc ça, c'est quand même lié aussi à l'esprit d'une langue. Il faut être capable de trouver peut-être des solutions propres au français pour rendre...
C'est une écriture qui est vraiment ancrée dans la subjectivité, puis dans une partout. Subjectivité très féminine, je pense. Tu sais, il y a parmi ces personnages des figures de femmes qui sont parmi les plus belles, les plus puissantes que j'ai vues. Puis cette perspective-là que moi, j'avais pas trouvée souvent dans la littérature, de dire ça, c'est... on pourrait pas être dans la tête d'un homme. T'sais, c'est vraiment... Il y avait vraiment quelque chose dans cette... Analyse, c'est pas le bon mot, mais dans cette... Dans cette...
Incarnation, presque. Incarnation de la pensée.
Quelque chose de l'ordre de... Presque de l'excavation, là, creuser vraiment profondément pour toucher à quelque chose d'essentiel. Puis c'est des livres qui sont proches de la poésie aussi. Mm-hmm. Pas de la même façon que Cad Michaels, parce que ça se passe moins sur le plan strictement de l'écriture, puis c'est vraiment plus au niveau de l'émotion. Puis c'est une écriture qui est extrêmement sensible, tu sais, je veux dire, qui est ouverte au monde sensible, les odeurs, les couleurs, on est comme... Ces personnages sont traversés par ça, puis comme lecteur, ça nous traverse aussi. Donc c'était une belle école, là.
Est-ce que pour la suite de ton parcours qui s'est passé plus tard hors de Boréal avec d'autres éditeurs dont on va reparler dans un moment, est-ce que tu t'es gardé une sorte de Jean Bernier mental pour te donner des permissions quand tu trouves pas des solutions dans les dans les traductions?
Non, je fais ça quand j'écris. J'ai une sorte d'éditeur intérieur. Quand je traduis, pas tellement, non. Non, quand je traduis puis que je frappe un nœud ou quelque chose que je sais pas comment résoudre, on dirait que je fais juste... Je m'en vais. Je m'éloigne. Je vais prendre une marche. C'est physiquement, je me détache. Puis quand je reviens, les choses apparaissent. Parce que je pense que souvent, le problème, c'est de vouloir rester très attaché à quelque chose dont on doit se défaire. Donc la solution, c'est juste de prendre un pas de recul, là.
Et donc, à un autre moment important de ton parcours, tu passes du Boréal à Alto, comme autrice puis comme traductrice. Et on sait qu'Alto, à l'époque, c'est la jeune maison d'édition, c'est à Québec, que tout le monde associe au méga succès Nikolsky de Nicolas Dickner, qui allait bientôt être lu par les cégepiens et cégepiennes aussi souvent que Jacques Poulain et Anne Hébert. Mais on se souvient moins que pour les traductrices, c'était déjà la maison de l'incroyable traductrice Sophie Voileau. Et tu as eu un coup de cœur pour une de ses traductions, qui est de Thomas Wharton, que tu vas aussi traduire. Est-ce que tu veux nous parler de Sophie?
Sophie, elle est... je parlais d'Anne Michaels tout à l'heure en disant que c'est un talent rare, comme il y en a une ou deux par génération. Sophie, c'est ça. Mais du côté de la traduction, cette femme est extraordinaire et formidable et sans égale. Je sais pas comment la décrire. Elle a pas étudié la traduction, elle se destinait pas nécessairement à ça. C'est Antoine Tanguay de chez Alto qui, le premier, lui a confié un livre à traduire. Et à l'époque, tu dis que Alto était une jeune maison, mais c'était même pas ça, là. Il était tout seul dans sa cuisine de son appartement. Pour vrai, c'était ça, Alto.
Aujourd'hui, on dirait une jeune pousse.
Et puis, je me rappelle quand j'avais envoyé, moi, le manuscrit du Bon Usage des Étoiles, quand j'avais dit que j'avais l'intention de l'envoyer chez Alto, Jean Bernier, que j'adore par ailleurs, m'avait dit, mais ne fais pas ça, ce n'est pas une vraie maison. Puis, il n'y avait pas tort, c'était pas tout à fait une maison. Mais Antoine avait ce flair et cet instinct-là de trouver les bonnes personnes, puis surtout de leur faire confiance. Et donc, il était allé dénicher Sophie Voileau, je ne sais où, puis il lui avait donné Logogriffe à traduire. Je pense que ça avait gagné le prix du gouverneur général cette année-là.
Je ne suis pas allée revérifier, mais je sais que Sophie l'a gagné trois fois et a été nommée chaque année qu'elle a publié une traduction.
C'est clair.
Et aussi irritant que ça puisse paraître pour les autres traductrices, chacune de ces nominations était profondément méritée.
Complètement. Ce qui fait que moi, quand est venu le temps d'envoyer mon manuscrit, le manuscrit de mon premier roman à une maison d'édition, oui, j'avais Nikolsky en tête, bien sûr, mais j'avais autant, sinon plus, Logogriffe en tête, parce que c'est un livre inclassable qui n'aurait pas pu être fait ailleurs. T'sais, à l'époque, il n'y avait pas tant de... Là, il y a des nouvelles maisons qui publient toutes sortes de textes un peu iconoclastes, qui ont, qui un peu à la frontière des genres, tout ça, mais à l'époque, les maisons étaient vraiment plus statiques, c'était des grosses boîtes, et ce livre-là, Logogriffe, qui est une sorte de dictionnaire de bibliothèque de livres imaginaires, là, n'aurait pas pu être fait ailleurs.
Tout à fait. Puis ça a donné le ton, au fond, pour beaucoup de choses qui allaient se passer chez Aalto. Ça a vraiment envoyé un symbole.
Ça a donné la couleur tout de suite.
Voilà. Exactement. Et puis chez Aalto, ben, tu vas avoir une occasion qui est quand même malheureusement rare dans un parcours de traduction, qui est celle de proposer toi-même une autrice et qu'elle soit retenue. Une autrice qu'il fallait à l'époque retraduire d'urgence.
Ouais.
Et puis pas n'importe laquelle, Heather O'Neill. Est-ce que tu veux nous parler de la première traduction d'Heather qui était parue en France?
Oui, son premier roman qui est magnifique, qui s'appelait en anglais Lullabies for Little Criminals, qui est une sorte de petit chef-d'œuvre, avait été traduit en France par quelqu'un qui voulait bien faire. Mais c'était une traduction qui était tellement franchouillarde, puis qui témoignait d'une telle méconnaissance du contexte américain et plus particulièrement du contexte montréalais. Tu sais, ça faisait mal aux yeux, puis aux oreilles. Là. C'était plein de trucs impossibles, de choses incongrues. Tu sais, ça commençait, là, c'est un genre de petit bum de l'Est de Montréal qui a quelque chose comme 28 ans, là. Qui sort de chez lui, puis il fait froid, puis il s'exclame « Putain, mec, ça caille! » C'est comme ça que ça commence. C'est à l'avenant. C'est pendant 300 pages. Puis je pense qu'Heather, elle avait à l'époque fait confiance au fait que c'était une grande maison, puis que c'était comme ça qu'il fallait faire. Fallait être traduit en Europe. Mais assez rapidement, ses amis montréalais, tous ceux qui parlaient français, lui ont dit « Mais non, ça n'a pas d'allure. » Sauf que là, elle était un peu pris avec ça. Finalement, elle a réussi à sortir de son contrat. Je ne sais pas trop comment, mais moi, quand je l'ai découverte, c'est en lisant « Daydreams of Angels », qui est un recueil de nouvelles fabuleux. Puis là, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Antoine, mais est-ce qu'elle a été... qu'est-ce qui arrive avec ses autres livres? » Tu sais, « La balade de Baby », ça a été fait... horriblement en France, mais est-ce que ses autres livres ont été traduits? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est sous contrat quelque part? Puis là, lui a fait quelques téléphones pour se rendre compte qu'en fait, elle était justement à la recherche d'un éditeur québécois. Elle était comme un peu en train de négocier tout ça. Donc, on l'a vu in extremis. Là, moi, je partais pour les États-Unis comme 24 heures après. J'ai mis Denis Béchard sur le coup. Je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais, toi, tu la connais un petit peu. Peux-tu lui dire que t'es bien chez Aalto, qu'on travaille bien, qu'on traite bien nos auteurs, que t'es content, tout ça. Fait que là, il est allé prendre un café avec elle. Elle est venue prendre un café avec moi le lendemain. Puis elle nous a fait confiance. Donc, à partir de ce moment-là, on a pu traduire ses romans subséquents. Puis quelques années plus tard, on a pu aller rechercher les droits de La balade de Baby et refaire une version québécoise. Ouf! C'est ça. Il y a une génération de livres qui ont été un peu massacrés comme ça dans la traduction, tu sais, dans des traductions françaises. J'sais que Laurie Saint-Martin et Paul Gagné en avaient refait quelques-uns, des Mordecai Richler notamment. Mais il y a beaucoup d'auteurs québécois qui se sont fait défigurer.
Heather, au moins, reconnaît sa chance. Puis elle aussi avait un mot pour toi.
Bon, pour moi, je dis toujours que la fête que Dominique Fortier est ma traductrice, c'est comme un des plus belles cadeaux de ma vie, en fait. J'ai choisi Dominique parce que, en fait, j'adorais sa plume, la façon qu'elle... J'avais lu ses romans, puis elle avait une versatilité qui était très doux et tellement poétique, et dont on s'est rencontrés la première fois, et la façon dont elle a parlé de ma poésie, la poésie dans mes romans, puis elle comprenait le fait que, essentiellement, tous les romans sont des poèmes. Il faut jouer avec les mots pour trouver ce ton-là. Et je savais qu'avec mon écriture, parce que j'utilise comme des phrases en anglais qui sont très, très courtes et des différentes épaves, donc avec Dominique est capable de trouver une façon de répliquer ça dans Québec. Et c'est intéressant parce que quand je parle à des gens francophones qui parlent de mes romans, je sais qu'ils parlent d'une œuvre que j'ai créée avec Dominique Fortier. Puis c'est toujours comme un compliment pour elle aussi parce que c'est elle qui a découvert une voix qui était capable de réunir notre poésie.
Wow!
Oui, voilà, puis Heather a la vie que l'on sait, donc j'étais capable seulement de l'attraper dans un lieu public, désolé pour la qualité de l'audio,
mais
elle tenait quand même vraiment à dire un mot là, sur la qualité de ce travail-là, puis c'est vrai ce qu'elle dit, parce que votre relation de traduction s'établit dans la durée, donc t'as vraiment pu faire un travail de cohérence, tu sais, à l'intérieur de l'évolution de ses thèmes, de son style, de donner une voix québécoise. Une voix montréalaise, même.
C'est un peu comme quand certains comédiens sont doublés par d'autres, comme toujours par la même voix. Tu sais, on vient qu'on associe la voix québécoise à l'acteur américain, je sais pas quoi. Ouais, j'ai cette chance-là d'être la voix québécoise, de québécoise-française. C'est tellement beau ce qu'elle dit quand elle dit « tous les romans sont des poèmes ».
Oui.
Je sais pas si c'est vrai dans l'absolu, mais c'est vrai de ses romans à elle. Puis cette poésie-là est fabuleuse. C'est tellement un cadeau de pouvoir continuer à la traduire.
Mais oui, parce qu'on le sait dès qu'on lui parle un peu, dès qu'on l'entend en entretien, elle vit dans un monde magique.
Complètement.
Donc,
il faut elle
être
est
capable...
magique.
Voilà,
elle est
ça.
Cette créature de cet univers qu'elle a créé. Elle est le personnage de ses livres, tu sais, clairement.
Tout à fait.
Puis, c'est ça, quand on peut suivre un auteur dans la durée, ben, il y a quelque chose qui se développe, évidemment. Tu sais, on apprend sa langue. Ça devient une sorte de deuxième ou de troisième langue qu'on sait parler d'une façon naturelle, presque instinctive, tandis que au début, c'est un peu difficile, tu sais, le premier livre d'un auteur, il y a toujours une sorte de tâtonnement, faut vraiment, c'est comme apprendre une nouvelle grammaire, tu sais.
Mm-hmm.
Puis, mais là, on dirait que je parle le O'Neill maintenant, je sais comment ça fonctionne.
Puis c'est tout un défi, on en avait parlé, Heather m'en a parlé aussi, ces phrases sont... J'ai envie de dire « dangereusement simple ».
Ouais, c'est le bon adverbe.
et donc, ça peut facilement être raté, parce qu'en anglais, tout tient pas à la qualité extrême de son vocabulaire ou à la complexité de son style, ça tient à un ton.
En anglais, ça marche super bien. Mm. Ces petites phrases extrêmement courtes, elle a un vocabulaire aussi qui est assez réduit, il y a beaucoup de répétitions, il n'y a jamais de mots rares, il n'y a jamais de tournure compliquée. Puis, ce qui fait que si en français on la traduisait mot à mot ou le moindrement, si on colle au texte, ça fonctionne pas.
Mm-hmm.
Ça marche pas du tout. On a l'impression que c'est un texte qui est écrit par un élève de quatrième année, tu sais, et c'est pas ce qu'on ressent en lisant l'anglais, zéro. Fait qu'il fallait trouver un moyen d'avoir la même simplicité, la même proximité avec le lecteur, mais le faire par des moyens différents. Puis, c'est fou, hein, parce que c'est probablement les livres les plus simples à la lecture parmi tous ceux que j'ai traduits, puis c'est ceux qui, encore aujourd'hui, me donnent le plus de mal. Je m'arrache les cheveux des fois, alors que des trucs hyper techniques ou très compliqués, on parlait de « Parlez-vous Borot », tu sais, cet ouvrage sur la linguistique qui parlait de 42 langues en voie d'extinction avec plein de termes hyper précis, tout ça. Et ça va, là. Mais Heather O'Neill, avec ses petites phrases qui font des feux d'artifice, là, c'est difficile.
Tout à fait, mais elle est chanceuse de t'avoir. Ben, j'arrive à la question qui doit brûler les lèvres des gens qui sont venus t'écouter ce matin ou qui écoutent ce balado. Ben, quelle est l'influence sur ton travail d'écrivaine de la traduction? Et bon, tu m'as raconté que tu t'es retrouvée sur une table ronde dans un festival à Étonnant Voyageur en France il y a plusieurs années avec d'autres personnes qui sont dans ton cas, qui sont des autoristes, traductoristes, vice-versa, là, selon ce qu'on veut mettre de l'avant. Et tout le monde s'entendait, pour répondre à cette question, qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien à dire.
J'avais été très soulagée parce que moi, je me présentais à cette table ronde vraiment à reculons. C'était des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi, des traducteurs chevronnés, bardés de prix et français. qui plus est. Puis je me disais, mais je n'aurais rien à dire à ces gens parce que je peux pas. T'sais, c'était ça le thème de la table ronde, c'était comment est-ce que votre pratique de traduction nourrit votre pratique de création. Puis moi, j'avais été une des premières à parler, peut-être la première, puis j'avais dit, mais je pense qu'il n'y a pas tant de chemin entre les deux. J'ai l'impression que c'est deux hémisphères du cerveau, deux muscles différents, t'sais, je la vois pas, l'influence. Et chacune des autres personnes autour de la table après avait dit, mais moi non plus je le vois pas, moi non plus j'ai pas l'impression que ce que j'ai l'impression qui nourrit le travail d'écriture, c'est la lecture. Puis ça, je pense que c'est vrai pour n'importe quel écrivain, c'est que les livres qu'on lit pendant qu'on est en train d'écrire, puis même les livres qu'on lit dans notre vie, ils vont nous habiter, ils vont nous hanter, ils vont nous construire, puis ça va se retrouver de différentes façons dans nos œuvres. Mais une traduction, tu sais, des fois, ce que je te disais, c'est que je vais prendre un snippet, là, un tout petit truc dans une traduction, comme Anne Michaels dans ses livres, il y a un paquet de petits trésors, là, des pépites, des choses qui brillent, là, puis des fois, moi, je reprends ça dans un de mes livres, tu sais, pour le développer un peu, tu sais, une chose que je vais avoir découverte chez elle. Mais c'est pas une influence littéraire, ça. C'est plutôt quelque chose de documentaire. Tu sais, c'est comme quand on voit quelque chose d'intéressant à la télé ou dans un film, puis qu'on se dit, ah, mais ça pourrait être une image porteuse, là.
Ça,
mais sinon, je sais pas.
Déclencher ton imaginaire.
Peut-être qu'il y en a une influence, puis qu'elle est comme souterraine, tu sais, mais je...
Ouais, tout à fait. C'est que je pense que la plupart des lecteuristes s'attendent à une réponse plus spectaculaire parce qu'on a en tête des cas de figure historiques très marquants comme Baudelaire traduisant Edgar Poe, Paul Ricoeur traduisant Husserl, c'est des auteurs qui ont commencé leur parcours en philosophie ou en écriture par une grande traduction. Mais pour toi, je pense que ça se passe un peu plus dans les petits objets, les échos, les choses que tu peux ramasser. Puis c'est drôle parce qu'en lisant ton recueil de poésie, j'ai trouvé ce petit poème qui, on dirait, décrit ce que tu fais dans ces circonstances-là. Tu écris « Je ramasse les reliefs ». Éperdu, il faudrait tout garder depuis toujours, dents de lait, pièces orphelines, fragiles osselets trouvés dans la Seine. Est-ce que tu veux nous parler d'un de ces osselets que tu as trouvé dans Anne Michaels, qui était la Bone Music? Est-ce que tu as le droit d'en parler?
Ben, je peux en parler, mais ça me fait penser, je sais pas pourquoi, je pensais à un autre truc que j'ai pêché chez Anne Michaels. Mais avant ça, Il y a quand même quelque chose, tu parles de Baudelaire, tu parles de Ricoeur avec Husserl, tout ça. Moi, la traduction m'a quand même amenée à l'écriture, d'une certaine façon, c'est-à-dire en me donnant la confiance que j'avais zéro, en me montrant comment est-ce qu'on fabrique un livre d'une manière très, très concrète, matérielle, en me familiarisant avec les étapes, là, révision, correction, les manuscrits. Moi, je suis petite, puis même... plus âgée jusqu'à mes études de doctorat, les livres étaient des objets presque sacrés pour moi. J'avais pas l'impression qu'on pouvait faire un livre. Puis ça, la traduction, ça m'a comme montré que ça se fabriquait. Donc, il y a quand même une porte d'entrée. Pour ce qui est d'Anne Michaels, c'est des trucs qui, dans son œuvre, des fois, ça va prendre 10 lignes, mais c'est des images qui, après, nous restent avec nous. En tout cas, moi, cette chose que j'avais trouvée très belle, elle parlait... des matelots d'une région du nord de l'Angleterre, en fait, où les marins portent des gros pulls à torsade. Et c'est des pêcheurs, ils partent en mer. Et des fois, il arrive que les bateaux font naufrage, les marins ne reviennent pas. Ou alors, ce sont leurs corps qui reviennent sur le rivage. Et les femmes les reconnaissent à une erreur dans le tricot qu'elles ont faite. Parce que chacune... plutôt que de reproduire exactement le patron, va introduire une faute. Puis c'est à cette faute-là qu'elle va reconnaître son mari. T'sais, moi, je suis... Cette image fabuleuse, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est quelque chose qu'elle a inventé, mais ça contient... Il y a comme tout un petit monde dans cette image-là. C'est le genre de choses dont elle a le secret, Anne Michaels.
Oui, puis j'ai l'impression que ça résonne particulièrement avec toi, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... De chapitres ou de fragments ou de, je sais pas comment tu les appelles dans tes romans, qui partent d'une image poétique.
Ben comme moi, ça, j'aime que tu semer ça dans c'est mes ça. Romans aussi. Autant, je pense qu'on est toujours en train d'écrire le livre qu'on aimerait lire, donc moi, j'essaie de
comme le petit poucet avec ses cailloux blancs, mais j'essaie de mettre de ces choses-là dans mes livres, que les lecteurs puissent de temps en temps trouver quelque chose qui brille, tu sais, puis dire « Ah oui, tu sais, cette chose-là, je la prends, je la garde. »
Parlant d'une autre chose qui brille, est-ce que tu veux garder le secret sur la bande musique ou on peut expliquer ce que c'est?
On peut expliquer ce que c'est, mais j'en parle dans mon prochain roman qui va paraître à l'automne, mais tu sais, j'en parle brièvement, mais ça aussi, c'est Anne Michaels qui m'a fait découvrir ça. C'est à l'époque de l'URSS, dans les années 50-60, jusqu'aux années 70, je crois. Le régime interdisait évidemment la musique américaine, le rock, et donc pour contourner l'interdiction, il y avait des disques de Elvis Presley, de Johnny Cash, qui étaient gravés, mais sur d'anciennes radiographies. Les gens allaient dans les conteneurs des hôpitaux, sortaient les radios et se servaient des films pour graver, pour faire comme des micro-sillons et graver la musique dessus. Et ça existe encore. On peut en acheter sur eBay. C'est fascinant. Tu vois, il y a comme une main, un crâne, un poumon. Puis j'ai jamais essayé d'en faire jouer. Par contre, j'en ai déjà acheté que j'ai offert en cadeau. Je sais pas, je pense que si tu le mets sur une table tournante, tu mets l'aiguille, il y a de la musique.
Tu peux faire jouer les os.
Et donc ça s'appelle Bone Music, ouais.
Quand même,
merci,
quelle image.
Merci Anne Michaels.
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Je t'amène sur un sujet qui t'a occupé récemment aussi, qui est un sujet important pour les traducteurs qui traduisent de l'anglais vers le français, qui est que l'anglais, c'est tellement plus simple de mettre de l'avant des personnages non-genrés ou alors de contourner le problème du genre. Et avec la littérature contemporaine qui met de plus en plus de l'avant des personnages qui ont un rapport au genre différent, qui va au-delà de la binarité, ben on se retrouve en français à avoir des choix à faire et donc à devoir aller piger dans les différentes solutions que nous offre la langue inclusive. Je pense que c'est pas des solutions que t'es allé chercher pour le moment, mais tu t'es posé la question à cause d'un personnage dans un roman de Denis Béchard.
Ouais, on est en train de mettre la dernière main à la traduction d'un roman avec un titre magnifique en anglais, ça s'appelle We Are Dreams in the Eternal Machine. Et en français, on n'est pas sûr comment ça s'appelle, parce que je veux dire, comment traduire ce titre? Dans ce livre, il y a effectivement un personnage non-genré qui s'appelle Lux, qui en anglais est désigné par le pronom « they »,« them ». Puis en français, bon, tu sais, « il », ça va. Dans la narration, de temps en temps, quand j'ai pas le choix d'avoir un participe passé, j'y vais avec le point médian. Là. Mais dans les dialogues, je savais pas comment rendre ça. Il y a des fois, tu sais, vraiment, là, j'ai fait beaucoup de contorsions pour y aller avec des tournures neutres, tu sais, formuler les choses autrement, mais il y a des fois, tu peux comme pas éviter les participes passés. Puis en français, ça s'accorde.
Tout à fait.
Tu sais, qu'est-ce que je fais, là? Je vais pas mettre un point au milieu d'un dialogue. Tu sais, ça fonctionne pas. Fait qu'on dirait que pour l'instant, il y a quelques occurrences où les choses sont au masculin, puis là, j'essaie de me convaincre que le masculin est comme un neutre. En sachant que c'est pas vrai. Je ne sais pas quoi faire avec ça.
Oui, puis qu'on a l'impression que pour la plupart des lectoristes, ça va devenir de moins en moins vrai, puis de moins en moins facile à justifier avec le temps qui passe.
C'est sûr qu'il y a une problématisation, mais je pense pas qu'on est arrivé encore à des solutions tout à fait satisfaisantes.
Non, puis là, ça nous transforme souvent en acrobates. Les nominations au GG l'an dernier pour la traduction de l'anglais au français, il y avait une très belle traduction d'Annie Goulet chez Héliotrope de Créatures obscures du 21e siècle. Et la première nouvelle en anglais est un dialogue avec aucune phrase de narration. Ce sont que deux personnages qui parlent, avec pas d'incises, pas de... et un des personnages vit un deuil. Dans la version anglaise, le personnage n'est jamais genré. Mm. Mais à cause de notre perception de qui dans la société parle de ses émotions et de son deuil, les gens le lisent comme si c'était une femme. Okay. Mais la traductrice Annie Goulet a lu, relu et parlé avec l'autrice de la version originale. L'autrice a dit non, c'est vraiment important pour moi qu'on décide. Mais elle dit, moi je le fais en français. Mm. En français, essaie de faire un dialogue. Écoute-moi, comme tu viens de dire, essaie de faire un dialogue qui court sur 8-10 pages.
Ça devient comme la disparition de Pérec. Ben, oui. Où est-ce qu'il...
Puis là, la situation est très particulière aussi parce que c'est pas non plus un personnage non-binaire. Mm-hmm. Donc, on peut pas faire des accords visiblement inclusifs qui donnent l'impression que... Parce que là, on vient encore plus de choisir le genre.
Puis on vient d'appuyer sur le fait que là, on le sait pas, puis... Oui.
Voilà, puis ça a l'air d'une conversation mettant en scène un personnage non-binaire, puis c'est comme ça que les gens vont présenter la nouvelle, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, elle a vraiment fait toutes les acrobaties possibles.
Bien, c'est j'imagine la même difficulté qui se pose chaque fois qu'on part d'une langue moins précise à une langue qui impose certaines précisions. T'sais. C'est que tu es forcé à faire des choix que l'auteur, lui, a pu, sur des choses qu'il a pu laisser en suspens de façon volontaire ou pas. Là. Ouais. Mais le français nous force à faire ça.
Alors, des beaux défis à venir. Mmh. Je t'amène sur une dernière question contemporaine qui est celle de l'appropriation culturelle et des lectures sensibles qui se multiplient chez les éditoristes pour essayer d'éviter justement qu'il y ait une appropriation culturelle. On essaie d'offrir aux écrivains, offrir aux traducteurs, d'avoir de l'aide, d'avoir des lectures complémentaires. Et quand on discutait de est-ce que ce sont des bonnes pratiques, est-ce que ça se fait de la bonne façon, comment on peut le faire de façon intelligente, tu m'as aidé à avoir un point de vue plus vaste sur la question. Pour toi, tout de suite, l'enjeu, c'est la traduction, ça doit être une sensibilité partagée entre l'auteur et le traducteur. Donc, la chose la plus importante, c'est de bien choisir la personne qui va traduire, qui a un fit, qui a
une rencontre. Ça. J'avais un ami réalisateur, moi, qui me disait que la moitié, si ce n'est comme le trois quarts du travail de direction d'acteur, c'est le bon casting. C'est que si tu as la bonne personne au début pour le bon rôle, après, ça se fait presque tout seul. Moi, je pense que la traduction, c'est un peu ça aussi. C'est que, tu sais, on parlait tout à l'heure du fait que ma première traduction, on m'avait demandé de faire un très long échantillon. Oui. C'est vrai que c'était beaucoup, là. C'était pas payé. Bien, ça a été payé, mais si ça avait pas marché, ça l'aurait pas été. Mais je pense que il y aurait pas de mal à avoir cette pratique-là. Tu sais, quand on n'est pas sûr, quand on veut voir... tu demandes à deux ou trois personnes, tu sais, peux-tu me faire deux pages de ça? Puis tu regardes après avec l'éditeur, avec l'auteur, laquelle de ces voix-là correspond à ce que, tu sais, à ce que toi t'entends dans ta tête quand t'écris, tu sais, qu'est-ce que tu vois comme couleur. Je pense que, Heather le disait merveilleusement, elle disait que dans ses livres, on entend notre poésie à toutes les deux, là. Je sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais, c'est que le texte traduit, c'est un espace partagé. C'est un espace partagé entre l'auteur original, entre le traducteur, puis qui devient aussi un lieu commun avec le lecteur. Fait qu'on peut pas être en train de s'arracher puis de se battre dans ce lieu-là. Il faut qu'il y ait quand même... Il faut qu'il y ait une entente là, entre l'auteur et le traducteur.
Tout à fait. Et puis je peux souhaiter, comme toi, qu'il y ait de plus en plus d'éditeurs, d'éditrices qui prennent la peine de passer par cette étape de l'échantillon pour la sélection. Peut-être que ça ferait entrer plusieurs nouvelles voix aussi dans le monde de la traduction.
Ben, je pense que oui, essayer. Ça devrait, parce que je pense que c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a jamais fait de traduction d'aller convaincre un éditeur de dire hey, « moi, je suis capable ». Mais si on laisse la chance à ces gens-là de montrer qu'ils sont capables, la question le problème disparaît. Là.
Bon, alors terminons avec la catastrophe à venir, l'intelligence artificielle nous remplacera tous. Et enfin, tu pourras apprendre le russe à temps plein.
Oui, c'est ça.
Non, c'est pas vrai, je t'amène pas sur ce sujet-là. Non, la vraie fin que j'aimerais qu'on fasse ensemble, ce sont les fleurs que tu pourrais lancer à ta traductrice, Rhonda Mullins.
Mon Dieu.
Dont tu surveilles assidûment le travail parce que toi, t'as la chance comme autrice d'être aussi traduite. Et bon, je sais que tu suis son travail vraiment de près. Mm. Ça t'intéresse beaucoup, les versions anglaises de tes textes. Donc, tu l'accompagnes. Donc, tu peux aussi voir la qualité de ce qu'elle fait.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous parler d'elle un peu?
Mais d'abord, elle est d'une patience d'ange parce que je ne suis pas une cliente facile. Oui, c'est ça. Moi, je suis ses textes. Écoute, c'est peu dire. Là, je prends les traductions puis je les regarde. Là, mais... à la lettre, là. Puis là, je lui ai écrit des longs courriels, et tombe bien sûr de cette virgule. Ça doit être insupportable parce qu'elle est formidablement compétente. Elle a une maîtrise de l'anglais
parfaite. Fait que chaque fois que je me dis « Ah, est-ce que c'est vraiment le bon mot? » C'est vraiment le bon mot. Elle le sait mieux que moi. Mais on dirait que j'ai comme ce besoin-là quand même là, de... C'est pas un besoin de contrôle parce que je le sais que je contrôle rien dans sa traduction, mais en tout cas, j'ai besoin de revisiter le texte anglais peut-être, juste comme pour me le mettre en bouche peut-être, je sais pas trop. Mm-hmm. Mais une sensibilité, une intelligence extraordinaire. Comme Jean Bernier disait tout à l'heure avec beaucoup de générosité, tu sais, qu'il avait un peu l'impression de voir l'écrivaine derrière la traductrice. Moi, chez Rhonda, je mm-hmm. vois l'écrivaine derrière la traductrice, puis je la taraude de la même façon en lui disant « Mais quand est-ce que tu écris? Quand est-ce que tu écris? » Parce que il y a de ça. Tu sais, puis en même temps, c'est quelqu'un de très humble. Elle est... T'sais, traducteur, c'est assez confortable que c'est un métier de l'ombre. On n'est pas obligé d'être sur la place publique, sauf des fois comme aujourd'hui. Mais sinon, on peut être derrière l'auteur, mm-hmm. derrière le texte. Je pense que ça, c'est une posture qui est confortable pour elle. Puis en même temps, t'sais, je le vois, là, qu'il y a une écrivaine dans la traductrice.
Ben, on attendra son livre avec grand plaisir. Laurie Saint-Martin, la grande Laurie Saint-Martin, nous a beaucoup encouragé, surtout dans la dernière partie de sa carrière, à ne pas toujours mettre de l'avant les erreurs de traduction, mais de mettre de l'avant ce que la traduction crée, permet, ce qu'elle ajoute, ce qu'elle invente. Et il y a une anecdote drôle avec la traduction de ton premier livre. Est-ce que tu veux nous raconter ce que ton copain a dit la première fois qu'il a lu ton premier livre
non,
en anglais?
Non, je refuse cette anecdote. Mais non, je vais le dire, bien
sûr.
Mais
c'est très drôle, je trouve.
Mais mon premier livre qui a été traduit par Sheila Fishman, qui est une sorte de légende de la traduction, qui a traduit Du bon usage des étoiles, qui est devenu On the proper use of stars, qui a fait une traduction magnifique. Puis mon chum... Étant anglophone, je le reprécise, c'est sa langue maternelle à lui, c'est l'anglais, a lu la version anglaise et m'a dit « Ah, mais c'est encore meilleur en anglais! » Oh yes! Et ça venait du cœur. Mais, voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça, c'est une traduction réussie,
oui,
je crois.
Tout à fait. Ça nous laisse entendre que peut-être, au fond, la version originale de ta vie a été écrite par Sheila Fishman et Rhonda Mullins.
Mais ceci dit, elle avait raison, Laurie Saint-Martin. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelait Le bien nécessaire.
Mmh, tout à fait.
Parce que quand on parle de traduction, souvent on la voit comme une sorte de mal nécessaire, un pis-aller. C'est un obstacle entre nous puis le texte, tout ça. Mais c'est vrai que d'abord, c'est un bien nécessaire parce que sans la traduction, il y a des tonnes de textes auxquels on n'aurait juste pas accès, donc c'est une porte. Mais aussi, il y a des couches de sens qui s'ajoutent. T'sais, c'est comme c'est donné à lire deux auteurs pour le prix d'un, presque.
Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique, pour ton temps.
Et ça me fait plaisir.
Merci. C'était le troisième et dernier épisode de la première saison de la version originale, un balado de l'ATTLC. Je m'appelle Jeanne Auclair. Merci à Dominique Fortier, à Métropolis Bleu pour la coproduction, et tout spécialement à Marie-André Lamontagne, dont le soutien indéfectible permet de rendre visible l'art de la traduction littéraire. Cette émission a été enregistrée par Adrien White. À bientôt.
What we have learned is that we think that we speak a language, but it is the language that speaks us.